On a fait beaucoup de chemin avec le Seigneur lorsqu'on peut chanter chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Parce que plus on avance avec le Seigneur, plus on réalise la dépendance que nous avons de lui, combien nous nous sentons petits et combien nous le voyons grand et que nous avons tout le temps besoin de lui. Pour décrire la relation qui unit le Seigneur Jésus à ses disciples, le Seigneur Jésus s'est présenté sous l'œil du berger. Et cette image du berger, c'est une image extraordinaire qui nous invite, nous les brebis du Seigneur, à deux choses très importantes. D'une part, à écouter et à entendre la voix du berger, et autre étape, de le suivre. Et je voudrais lire avec vous, sans plus tarder, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10. Très bien. On va partager des versets que vous connaissez bien. J'ai aimé comment le présentait Lucas tout à l'heure. C'est vrai que on ne veut pas remplir notre intellectuel ce soir. On veut vraiment que le Seigneur nous parle. Et comme le disait notre pasteur dimanche matin, il y a des versets, on a pu les lire des centaines de fois, et particulièrement peut-être Jean 10, hein, déjà dans la petite enfance, on parle de Jésus le bon berger. Mais peut-être qu'un mot ce soir, entendu de multiples fois, le Seigneur peut nous parler. Et je crois qu'il y a cette disposition pour chacun de nous, disposition de cœur aussi, comme le disait Lucas, et que nous puissions avoir voilà, un cœur grand ouvert. Et ce qu'on veut surtout, c'est une rencontre avec le Seigneur. Alléluia, on est d'accord ensemble pour cela. Dans l'Évangile de Jean, on va lire par exemple au chapitre 10, verset 1er, « en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Verset 5, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Il faudrait lire tout le chapitre 10, si vous n'y êtes peut-être pas trop habitué, vous le lirez chez vous tranquillement, mais on va lire juste en plus le verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main, mon Père qui me les a données. » Est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. J'ai voulu terminer ces versets parce qu'il y a une promesse extraordinaire pour celles et ceux qui sont vraiment les brebis du Seigneur engagés avec lui, que personne ne pourra les ravir de sa main, et cela réjouit notre cœur. Nous parlons souvent de l'obéissance à la voix de Dieu, et nous avons besoin de le faire, et nous avons raison de le faire, et nous devrons continuer à le faire. Mais ce soir, je m'attarderai plus sur la première étape qui est nécessaire pour suivre le Seigneur dans toutes ses voies, et ce sera le titre de notre message ce soir. Les brebis du Seigneur, elles écoutent sa voix. Les brebis du Seigneur écoutent sa voix. On le chante parfois ce cantique. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Apprendre à écouter la voix du bon berger. Il y a de multiples voix qui résonnent autour de nous. Déjà nos propres voix, les voix de notre entendement, de nos pensées. Et il y a aussi de multiples voix autour de nous et aussi la voix de l'ennemi. Hein. On se rappelle de cette expérience de Pierre, hein, quand le Seigneur a dû l'interpeller, mais tes pensées ne sont pas les miennes. Et c'est vrai combien aussi il y a toute une multitude de voix qui sont autour de nous. Et il est important pour nous de réaliser que pour suivre le chemin du Seigneur, Nous avons besoin, avant toute chose, de pouvoir être à l'écoute de la voix du Seigneur, de l'entendre et de bien la distinguer. Mes brebis, elles ne suivent pas l'étranger. Pourquoi ? Parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Par contre, ma voix, les brebis la connaissent. Et je voudrais que nous soyons interpellés par la parole de Dieu ce soir, à, en tout cas être encouragés les uns et les autres à être des brebis qui sont vraiment à l'écoute de la voix du bon berger. Et cela aura d'énormes conséquences parce que si jamais nous suivons nos propres voies, nous sommes finalement comme nous étions avant de connaître le Seigneur, dans le livre d'Ésaïe, à ce verset où il est dit que nous étions comme des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie. Et c'est vrai que parfois, même dans l'Église, dans certaines vies, certaines expériences, je vois que, eh bien, on peut diverger de droite et de gauche. Pourquoi ? Parce que nous pouvons prendre certaines voies pour la voie du Seigneur. Et il est important, peut-être, au travers de la parole de Dieu, de recadrer cela. Apprendre à écouter la voix du Seigneur. Et je dirais que c'est pratiquement même à tout âge de notre conversion, je dirais, bien sûr, au début, dans toutes ces formes d'apprentissage que nous avons quand on est comme un petit bébé spirituel ou sans besoin d'apprendre, et nous allons le partager tout à l'heure. Mais je crois que même après des années d'expérience, nous voulons que cette perception auditive, spirituelle en tout cas, soit de plus en plus précise. Nous en avons tellement besoin, jour après jour, pour être conduits dans le chemin que le Seigneur veut que nous suivions. Alors, comment apprendre à écouter la voix du Seigneur ? Peut-être un premier point, en réalisant, tout simplement, ça paraît très basique, mais j'ai à cœur de le partager avec vous, en réalisant véritablement, d'une manière très profonde et sincère, tous les jours de notre vie, que Dieu veut nous parler personnellement. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que tout au long de la Bible, Dieu n'a eu de cesse de vouloir faire entendre sa voix à ses créatures. On le voit dans le jardin d'Éden, lorsque l'Éternel s'adresse à Adam, à Ève. On le voit tout au long de la parole de Dieu, jusque dans l'Apocalypse, où le Dieu vivant et vrai s'adresse aux différentes églises, que celui qui a des oreilles écoute. Il y a véritablement un désir, une volonté du grand Dieu qui a tout créé, de parler à ses créatures. Cette voix que Dieu veut faire entendre, elle a pris une forme humaine. On pourrait le lire peut-être dans l'Évangile de Jean au chapitre 1er. Évangile de Jean au chapitre 1er. Et tout ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ que nous avons bien souvent l'occasion d'entendre. Cette voix, eh bien, elle a pris une forme humaine dans la personne de Jésus-Christ. Ça, c'est cette bonne nouvelle. On peut lire Jean au chapitre 1er. On pourrait lire juste le verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. La parole, elle a été faite chair. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit ceci: après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Hébreux, chapitre 1er, verset 1 et verset 2. Cette voix que Dieu veut faire entendre encore aujourd'hui, elle a pris cette forme humaine dans la personne de Jésus-Christ pour annoncer cette bonne nouvelle à l'humanité, cette bonne nouvelle que Dieu les aimait tellement, qu'il offrait son Fils unique, en sacrifice à la croix du calvaire. Et nous voulons avoir cette pensée, oui, que Dieu a eu ce désir de se révéler pleinement. On peut dire que au travers de Jésus-Christ, Dieu s'est adressé de vive voix à l'humanité. Et cette voix, l'entendons-nous dans les récits des évangiles, comme nous l'avons pu entendre encore dimanche, tous ces récits qui entourent particulièrement la croix du calvaire? Avons-nous entendu cette voix de l'Éternel qui nous dit « Je t'aime, voilà ce que je fais pour toi ». Quand Jésus est remonté au ciel, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il a dit ceci, « Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit dans Jean au chapitre 14 et au verset 26. » Comment apprendre à écouter la voix du Seigneur? C'est de réaliser déjà dans sa propre vie que Dieu veut nous parler personnellement. Dieu s'adresse parfois à l'Église, Dieu a des enseignements particuliers, nous le voyons peut-être aussi dans l'Apocalypse, mais dans d'autres textes, où Dieu s'adresse à des multitudes. Mais nous avons besoin de réaliser que Dieu veut nous parler, que Dieu a des choses à nous dire, que Dieu a des choses à nous révéler. Et cela peut disposer notre cœur si nous sommes déjà sensibles au fait que Dieu a envie de nous parler. Vous ne pouvez pas écouter la voix du Seigneur si vous ne réalisez pas pleinement qu'il a ce désir de vous parler. Et il suffit de voir dans les évangiles toutes les rencontres improbables que le Seigneur Jésus a fait, combien parfois Jésus a fait des détours pour aller rencontrer une personne. Des personnes que personne ne voulait aller voir, avec qui on voulait converser, le Seigneur a pris une attention tout à fait particulière. Et combien je vous invite à lire tous ces récits de l'Évangile. Je pense à la femme samaritaine, par exemple, mais c'est vraiment un petit exemple parmi la multitude, où le Seigneur Jésus avait une parole très personnelle pour cette femme. Et réalisons ce soir que le Seigneur aussi veut nous parler personnellement. En parlant du Saint-Esprit que le Seigneur nous a envoyé, il est là pour nous guider jour après jour. Rappelons-nous cette réalité que nous dit la parole de Dieu, c'est que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et cette prophétie aussi de Joël, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Dans Joël chapitre 2, verset 28. « Dieu n'a eu de cesse » au travers de toute l'histoire que nous voyons dans la parole de Dieu et que nous vivons encore aujourd'hui, n'a eu de cesse de vouloir faire entendre sa voix. Si nous voulons apprendre à écouter la voix du Seigneur, réalisons qu'il veut nous parler personnellement, à moi, à toi, pour des occasions particulières. Et la deuxième chose que je voudrais laisser sur votre cœur, comment être cette brebis qui est à l'écoute de la voix du Seigneur, c'est en étant et en restant surtout toujours attentif. C'est un petit peu comme un état de veille, vous savez, à l'écoute du Seigneur. Il y a un verset, je voudrais le lire avec vous, dans Job au chapitre 33. Dans Job, au chapitre 33, et verset 14, Job 33, verset 14, Dieu parle. Je fais une petite parenthèse, rien que ce début de verset, c'est une grâce qu'on a du mal à définir. Dieu parle. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Amen. Verset 14, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et voilà. Et l'on y prend point garde. Nous devons être convaincus que non seulement Dieu veut nous parler, mais que Dieu n'est pas limité par les moyens qu'il utilise pour nous faire entendre sa voix. Mais voilà, bien souvent, nous n'y faisons même pas attention, nous n'y prenons pas garde. D'autres versions disent « nous n'y faisons pas attention ». Tout simplement, c'est traduit comme cela. Et il suffit de voir le témoignage de Jésus, toute la vie qu'a été le Seigneur Jésus dans les évangiles, pour que nous puissions nous rendre compte combien beaucoup n'ont pas été attentifs à la voix de Dieu et n'ont pas réalisé qu'en la présence de Jésus, ils avaient ce Verbe incarné, la voix de Dieu personnifiée au milieu d'eux. Alors, ce qui est encore plus absurde, qu'ils attendaient tous le Messie. Et on peut penser particulièrement à ces chefs religieux qui auraient dû être peut-être plus sensibles que d'autres, en tout cas à la voix de Dieu. Ils n'ont pas reconnu la voix de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Et même pire que cela, ils ont tout fait pour que cette voix se taise. Les brebis du Seigneur, elles ont cette particularité, c'est que leur oreille, leur audition spirituelle, elle est comme un mot de veille, permanente, pour être prêt, en toute occasion, à écouter la voix du bon berger. Que ce soit au travers d'un songe, dans notre sommeil, que ce soit au travers d'une vision, que ce soit au travers d'un événement surnaturel, particulier, où nous ne mettons peut-être pas des mots, des questionnements. La brebis du Seigneur, elle est en état de veille, attentive, pour que quand la voix du Seigneur va se manifester, il ne soit pas de ceux qui n'y font pas attention, mais au contraire, qui y prend garde. Je voudrais vous donner le témoignage, on peut le lire dans Genèse au chapitre 37. Genèse chapitre 37, c'est l'expérience de Joseph. Joseph avait eu des songes et il en a parlé ouvertement, on dit peut-être parfois maladroitement, une forme petit peu d'orgueil, qu'importe en tout cas. Voilà, Joseph a manifesté ses songes qu'il a eus de la part de l'Éternel. Et dans Genèse au chapitre 37, et on va lire, alors pareil que tout à l'heure, il faudrait relire les contextes, mais juste le verset 9, parce que nous allons voir juste le témoignage du père de Joseph, de Jacob. 37 verset 9, « Joseph eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, virgule, mais, son père garda le souvenir de ces choses. Malgré un contexte très particulier, difficile pour Jacob, un fils, certains diraient un petit peu un chouchou, les autres frères avec des querelles, Joseph qui parle de ce songe qu'il a eu, ce nouveau songe qui est dans le même thème que le premier, malgré ce contexte difficile où Jacob ne va pas comprendre et même va marquer son indignation vis-à-vis de son fils, Jacob va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va mettre quand même cela dans un coin de son cœur. Et il peut y avoir des fois des événements dans notre vie, peut-être très particuliers, sur lesquels nous ne mettons pas des mots, peut-être même qui sont à l'opposé de ce que Dieu pourrait sembler nous révéler dans notre vie, mais il y a un surnaturel. Il y a quelque chose qui a ébranlé en tout cas le cœur de Jacob. Et même s'il ne savait pas, et la Bible ne le dit pas, mais voilà, c'est une petite parenthèse, mais peut-être que ce rappel, ce souvenir de ces choses l'ont aidé pendant toutes ces années où son fils était loin de lui, perdu, mort, selon ce qui avait été dit. Nous voyons un homme qui est prêt, disposé à recevoir la pensée de Dieu, je dirais, en toutes circonstances. Et cet état de veille, nous devons l'avoir. Pour être prêts, pour apprendre à écouter la voix du Seigneur, il faut que nous soyons attentifs, qu'il y ait une veille, pour que quand la voix du Seigneur se manifeste, quand il y a des indices, des signes particuliers, nous puissions être sensibles et que nous puissions garder ce dépôt dans notre cœur. Il y a un autre exemple qui m'a beaucoup interpellé quand j'étais jeune, je voudrais le voir avec vous. On va le lire, juste quelques versets. Dans l'évangile de Luc au chapitre 2, c'est le témoignage de Marie, la mère de Jésus. Elle a reçu des promesses extraordinaires. Elle ne les a pas toutes vues se réaliser de son vivant. Luc, on va lire Luc chapitre 2. Juste ce contexte où un ange va avertir les bergers de la naissance de Jésus. Luc chapitre 2, verset 15. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Marie, elle gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. C'est peut-être qu'une parole, c'est peut-être qu'un verset, vous savez, un chant des fois. Et comme le disait, je le redis encore, notre pasteur dimanche matin, mais il y a des versets, on les lit, il y a des histoires, on les connaît. Et puis un jour, à un moment donné particulier, moi combien je bénis le Seigneur pour cette belle expérience, et j'en parlerai tout à l'heure. Mais c'est vraiment important pour nous de réaliser qu'en toutes circonstances, je dis, Dieu n'est pas limité par les moyens, mais que nous puissions être attentifs, surtout que nous puissions prendre garde à la voix du Seigneur quand elle se manifeste. En tout cas, Marie, elle a fait comme Jacob, elle a mis ça dans un coin de son cœur. Je dis parfois, vous savez, on a tendance à ruminer facilement les mauvaises choses, comme on dit, on broyait du noir, un truc comme ça. Et Marie, elle faisait tout à fait l'inverse. Elle ruminait de bonnes choses, de bons dépôts, des choses surnaturelles qu'elle voyait. Et elle y voyait le doigt de Dieu, tout simplement. Et c'est cela que nous avons besoin. Regardez cet autre verset, chapitre 2, toujours verset 42. Lorsque Jésus fut âgé de 12 ans, ils montèrent à Jérusalem selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et quand ils s'en retournèrent, l'enfant, Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Alléluia! Quelle attention! Restez attentif. Rester attentif à la voix du Seigneur, c'est ne pas laisser les bruits de la vie, et ces bruits sont nombreux autour de nous, étouffer la voix du Seigneur. C'est aussi peut-être parfois se taire, comme le disait ce chant dont j'ai fait référence, « Si je me tais, j'apprendrai ». Parfois peut-être se taire, même dans le domaine de la prière, parfois nous parlons, et nous devons le faire, exposer nos besoins, mais avoir des temps, ces temps particuliers de communion, ou comme nous l'avons chanté tout à l'heure, quand nous réalisons cette soif de la présence de Dieu, pas forcément qu'à genoux ou que dans un temps de prière particulier, mais chaque instant de la journée où nous réalisons que nous avons besoin de lui, que nous puissions avoir cette attention. On ne sait pas quelles circonstances le Seigneur peut utiliser pour nous parler. Des fois, on lui pose des questions, il nous répond et on n'y prend pas attention. Et nous devons réaliser que Dieu n'est pas limité, on le voit au travers de ces petits exemples, mais ces choses surnaturelles que Dieu met sur notre chemin. Il y a tellement de sollicitations dans notre vie que la brebis du Seigneur, elle doit garder une oreille attentive à l'appel de son maître. C'est de sa responsabilité, je crois, que rien ne vienne couvrir cette voix du Seigneur. Oui, apprendre à écouter. Les brebis du Seigneur, elles écoutent sa voix. Comme je l'ai dit, en réalisant qu'il veut nous parler personnellement, en restant attentif, et peut-être terminer aussi par cette pensée, j'hésitais, mais on va le lire ensemble dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, je pensais à l'apôtre Paul, parce que c'est vrai que nous sommes le temple du Saint-Esprit, et je crois que le Saint-Esprit veut nous communiquer des paroles particulières de la part du Seigneur, nous guider, et on voit cet exemple qui est quand même assez fort dans Actes 16 au chapitre 6. Actes 16, verset 6, pardon. « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. » Regardez, verset 9, « Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Verset 10, « Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. » Je disais tout à l'heure, il y a ces deux dimensions, entendre la voix du Seigneur et bien sûr cette deuxième étape, la suivre et y obéir. Et j'aime dans ce verset, puisqu'il est dit « nous cherchâmes aussitôt ». Cette promptitude en tout cas à vouloir accomplir la volonté de Dieu, c'est tellement important. Mais l'étape d'avant est cruciale parce qu'il faut bien avoir entendu la voix du Seigneur, voyez, au travers de cette vision où le Seigneur a pu communiquer. Et je crains que trop souvent le Seigneur soit à la porte de notre cœur. Notre pasteur le dit souvent, peut-être parfois même à la porte de nos églises, mais en tout cas à la porte de notre cœur. Pourquoi il peut rester à la porte de notre cœur? Tout simplement parce que, comme l'a dit notre frère tout à l'heure dans les chants, il ne nous force pas. Il y a ce libre arbitre. Donc lui, bien, il reste à la porte, mais il frappe. Et c'est peut-être l'exemple aussi de ce qui est laissé dans la parole de Dieu de l'église de la Laodicée. Et peut-être que le Seigneur, parfois, il est là, il frappe. Il veut nous parler, il veut communiquer les choses. Et je vous relis ce verset dans la transcription Parole vivante. « Me voici debout devant la porte, hein. Je frappe. Si quelqu'un est sensible à mon appel, et s'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et nous dînerons en tête à tête, moi près de lui et lui près de moi. » Si quelqu'un est sensible à mon appel. La brebis du Seigneur, elle écoute sa voix. Elle est sensible, elle est attentive. Et la troisième dimension que je laisse sur votre cœur ce soir sur ce thème de la brebis qui écoute la voix du Seigneur, c'est, comme nous l'avons lu tout à l'heure, c'est qu'elle reconnaît, elle reconnaît la voix du berger. Nous l'avons lu tout à l'heure, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Parfois, alors j'anticipe un peu ce que je vais dire tout à l'heure, mais ça me vient à l'esprit, parfois, on pose, quand je dis parfois, c'est souvent qu'on a ce questionnement, mais comment savoir si c'est le Seigneur qui nous a parlé? C'est une question qui revient souvent et qui est fortement compréhensible. Et je peux vous assurer que quand le Seigneur nous parle, il n'y a pas de doute. On va y venir tout à l'heure, mais nous avons besoin d'expérimenter cela dans notre vie. Pas besoin de connaître toutes les autres formes de voix. Mes brebis, elles ne connaissent pas les voix des étrangers. Mais parce qu'elles vont entendre une autre voix qui n'est pas celle qui leur est familière, elles ne la suivront pas, tout simplement. Donc il suffit pour nous, non pas de connaître toutes les autres formes de voix, mais de plus en plus de connaître la voix du Seigneur, de nous en familiariser le plus possible afin de pouvoir la reconnaître. Comment apprendre à écouter la voix du Seigneur? En reconnaissant, en distinguant la voix du berger. Jésus, dans ce que nous avons lu tout à l'heure, dit ceci quand il l'a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Je vous ai lu le même verset que tout à l'heure, mais dans la version Semeur. Parce que sa voix leur est familière. Alors ce que nous allons dire maintenant dans cette dimension de reconnaître la voix du Seigneur, normalement ça devrait s'adresser qu'à de nouveaux convertis. Malheureusement, nous voyons que même des chrétiens de longue date ont encore des difficultés à discerner et distinguer la voix du Seigneur. Alors je me suis souvent posé la question pourquoi, et on va y venir un petit peu, mais nous avons besoin en tout cas, les uns et les autres, de nous familiariser avec la voix de Dieu. Et pour cela, il faut l'avoir entendue au moins une fois dans sa vie. Et je crois que, peut-être malheureusement, si certains, au bout de quelques années encore, ne distinguent pas forcément d'une manière rapide, en tout cas comme un réflexe, la voix du Seigneur, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu un véritable commencement, un véritable apprentissage de la voix du Seigneur. Nous avons parlé de Paul tout à l'heure, et nous avons vu qu'il a su être très attentif et sensible à la voix du Seigneur dans le texte que nous avons lu. Lui aussi a eu besoin d'une première fois, d'une rencontre. Et je voudrais la lire avec vous dans Actes au chapitre 22. C'est le témoignage qu'il donne lui-même au cours de son arrestation, de ce qu'a été sa rencontre avec le Seigneur. Lui aussi a eu besoin d'une première fois. Et peut-être, bien sûr, cette exhortation, elle va dans le sens des nouveaux convertis, de ceux qui commencent à marcher avec le Seigneur, d'expérimenter. Ce message, je l'ai eu beaucoup à cœur à une certaine époque, parce que j'ai fait une expérience personnelle où je n'ai pas compris de suite que ce que j'avais reçu dans mon cœur venait de Dieu. Ça n'avait toute l'apparence, le doigt de Dieu. Et j'ai mis deux années, j'avais grandi dans les voies du Seigneur. J'ai mis deux années à réaliser que ce que j'avais reçu venait de lui. Je ne connaissais pas sa voix. Je n'étais pas capable à l'époque de distinguer sa voix. C'est pour cela que je dis, ça s'adresse forcément, peut-être en premier lieu, à des nouveaux convertis, à des gens qui commencent à marcher, à grandir avec le Seigneur. Mais je crois aussi, c'est pour ça que je le partage avec peut-être un peu d'insistance ce soir, que si certaines n'ont pas encore été familiarisées avec la voix du Seigneur, quel que soit le nombre d'années de vos conversions, il y a besoin d'une première fois. Lisons ce témoignage de l'apôtre Paul, qui s'appelait autrefois Saul de Tarse. Il donne ce témoignage « comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre, et j'entendis une voix qui me disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit, « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, « Que ferai-je, Seigneur ? » Et le Seigneur me dit, « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, et j'arrivai à Damas. » Amen. Saul avait conscience d'avoir affaire à une voix divine, mais il ne connaissait pas la voix de Jésus. « Qui es-tu, Seigneur ?» Et cette sensibilité à la voix du Seigneur va se développer petit à petit tout au long de son ministère, à tel point qu'il pourra très bien faire la différence entre ce qui vient de lui, ce qui lui est personnel, et ce qu'il reçoit du Seigneur. Dans des questions, par exemple, relatives au mariage, Paul dit ceci aux autres, « Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. » Et ce même Paul qui va avertir les croyants que le diable est capable de se déguiser en ange de lumière, pouvait affirmer que ses visions et ses révélations venaient du Seigneur. Il déclare ceci, « Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Galates chapitre 1, verset 11. Et tout à l'heure, je vous ai lu 2 Corinthiens 11, verset 14. Cette sensibilité à la voix du Seigneur, elle a eu besoin d'un commencement. Saul de Tarse ne connaissait pas la voix du Seigneur Jésus. Et cette voix, elle va lui devenir tellement familière qu'on l'a vu tout à l'heure dans ce texte que nous avons lu, qu'il va pouvoir être sensible dès qu'un événement particulier, notamment de cette vision, dès que quelque chose va se passer, il est là, sensible à la voix du Seigneur. Par exemple, pour la Sainte-Cène, on cite souvent ce texte, il dit ceci, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » Une révélation directe, cette voix lui est devenue familière. Il y a un autre exemple dans la parole de Dieu auquel je pense aussi souvent. Je voudrais le lire avec vous dans le premier livre de Samuel. Juste, par exemple, dans 1 Samuel, chapitre 3, verset 19. Il est dit ceci, 1 Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. C'est un verset que l'on connaît, que l'on cite parfois. Il y a peut-être une mauvaise interprétation un petit peu de ce verset, mais c'est pas une, vous inquiétez pas, une mauvaise interprétation, elle n'est pas du tout fausse. Ce n'est pas Samuel qui laissait tomber à terre les paroles de l'Éternel, mais c'est l'Éternel qui ne laissait aucune des paroles de Samuel sans effet. Je vous cite une autre version, par exemple, mais vous en trouverez d'autres qui vont dans le même sens. Il est dit, je crois que j'ai pris la version Semeur, « Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et ne laissait aucune de ses paroles rester sans effet. » Et si vous regardez bien d'ailleurs le verset 20, il est dit ceci, « Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. » Ce qui accrédite surtout un prophète, ce n'est pas ce qu'il dit, mais c'est l'accomplissement de ses paroles. Il est dit ceci dans le Deutéronome, peut-être tu diras dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite ? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui, dans Deutéronome, chapitre 18, versets 21 et 22. Ce qui accrédite un prophète, ce n'est pas ce qu'il dit, mais l'accomplissement des paroles qu'il dit. Samuel avait une telle sensibilité à la voix du Seigneur que tout ce qu'il disait s'accomplissait. C'est pour cela que l'Éternel, finalement, ne pouvait qu'accomplir toutes les paroles de Samuel. Pourquoi ? Parce que l'Éternel, en excellent prophète, rapportait exactement, ni plus ni moins, toutes les paroles qui venaient de l'Éternel. On a un témoignage, regardez, au chapitre 9, 1 Samuel chapitre 9. C'est l'histoire des ânes de Kis, on voit ça, peut-être lire juste le verset 3. Les ânes de Kis, père de Saül, s'égarèrent. On pourrait lire un petit peu plus loin, au verset 6. Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. » Il est question de Samuel. « Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. » Et vous savez, j'ai insisté un petit peu, j'ai donné une autre interprétation de ce verset, mais c'est surtout pour que nous puissions comprendre que Samuel était arrivé à un stade, comme l'apôtre Paul, où il avait une sensibilité incroyable de la voix qui venait du Seigneur, il pouvait distinguer très bien ce qui était de sa propre chair, de ce qui venait de l'Éternel. Et nous avons besoin, nous aussi, je pense, par rapport à ce thème d'apprendre à écouter la voix du Seigneur, nous avons besoin, nous aussi, de reconnaître véritablement la voix du Seigneur. Mais vous savez, Samuel, ça n'a pas été quelque chose d'inné, quelque chose qui est venu sur sa vie. Il a eu, lui aussi, besoin d'une période d'apprentissage. Et si vous regardez avec moi au chapitre On pourrait lire juste chapitre 3, verset 1er. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici ». Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher ». Il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Amen. Samuel aussi a eu besoin de sa période d'apprentissage. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, il est possible que nous ayons besoin, peut-être comme une toute première fois, en tout cas dans notre vie, nous l'avons lu au travers de Saul de Tarse, nous l'avons lu au travers de Samuel. En tout cas, le Seigneur nous dit très clairement que les brebis ne connaissent pas la voix de l'étranger. Par contre, les brebis connaissent la voix du Seigneur. Je voudrais conclure juste parce que dit la parole de Dieu dans un autre texte, il y a aussi cette pensée où l'Ecclésiaste dit ceci, il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Souvent, dans nos relations avec Dieu, sont peut-être parfois comme des monologues. Nous sommes là, nous débitons beaucoup de choses et nous exposons, et comme le Seigneur le dit lui-même dans l'Évangile de Matthieu, ne multipliez pas par de vaines paroles. Et c'est vrai que parfois on est là comme ça, très très abondant, et on laisse que très peu de place au Seigneur pour nous parler. Et c'est vrai que c'est peut-être compliqué peut-être parfois, mais cela demande du temps. On ne peut pas, dans ces moments d'intimité où l'on veut véritablement entendre sa voix, ça ne peut pas se faire à la va-vite. Il faut être conscient que nous avons besoin de prendre du temps. Pas forcément que le Seigneur met du temps à nous parler, mais qu'il faut surtout du temps pour que notre cœur soit disposé à entendre sa voix. Il est important pour chacun d'entre nous de réaliser que Dieu a des choses à nous dire et qu'il veut nous parler personnellement. Et que nous avons besoin d'être en veille, d'être attentifs chaque fois que la voix du Seigneur se manifeste autour de nous, que nous puissions y prendre garde et bien distinguer cette voix de toutes les autres voix qui voudraient influencer notre vie. Vous savez, des fois, certains, on peut le dénoncer, disent « Le Seigneur m'a dit, le Seigneur... » Et faisons attention, déjà parce qu'il ne faut pas prendre le nom de l'Éternel en vain dans notre vie. Il y a de grandes recommandations dans la parole de Dieu. Mais surtout, avoir cette sensibilité que nous puissions reconnaître d'une manière infaillible dans notre vie la voix du Seigneur, parce que ce que nous allons faire après, l'obéissance que nous allons mettre après, eh bien, elle est bien, mais si elle n'est pas fondée sur ce que le Seigneur, lui, nous a dit et nous a demandé de faire, finalement, ce sera quelque chose d'inutile, parce qu'il, peut-être, ne nous a pas demandé de le faire. Nous devons exposer nos besoins, le Seigneur nous le demande à plusieurs reprises. Nous devons parler à notre Seigneur, mais dans cette intimité quotidienne avec lui, apprenons, mes frères et sœurs, à écouter sa voix, je vous assure, il a tant de choses à partager avec nous. Il suffit de lire toute la parole de Dieu pour voir combien Dieu veut parler, Dieu veut faire entendre sa voix. Je termine par ce verset. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Amen. Ésaïe, chapitre 50, verset 4. Prions le Seigneur un instant. Éternel, notre Dieu, merci pour cette image du bon berger que tu es vraiment pour chacun d'entre nous. Tu es ce bon berger qui prend soin des brebis, des brebis qui sont parfois, c'est vrai, nous devons le reconnaître, récalcitrantes. Et nous voulons te bénir pour ta patience, Seigneur, et pour le nombre de fois où tu nous as parlé et même reparlé. Seigneur, ta patience, elle est vraiment notre salut. Mais Seigneur, nous voulons aussi prendre notre responsabilité ce soir. Nous avons relu encore, Seigneur, tout cet enseignement où tu nous dis que tes brebis connaissent ta voix. C'est quelque chose de clair. Les brebis du Seigneur connaissent sa voix. Alors, les uns et les autres, avec beaucoup d'humilité, nous voulons venir devant toi. Seigneur, te demandant de nous aider à progresser dans la connaissance de ta voix. Seigneur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit autour de nous et qu'il est de notre responsabilité de prendre du temps, peut-être de faire taire certains bruits autour de nous. Et aide-nous, Seigneur, à faire cette expérience particulière d'entendre ta voix. Peut-être ce sera une première fois pour quelqu'un au milieu de nous ce soir, mais cette première fois sera décisive pour que dans les années suivantes, Seigneur, chaque fois que tu parleras au cœur, chaque fois que tu te manifesteras, nous ayons cette sensibilité pour dire oui, le Seigneur me montre le chemin, le Seigneur me dit quelle voie je dois suivre. Et semblable aux brebis du Seigneur, nous ne serons jamais égarés. Même plus que cela, nous vivrons dans le bonheur véritable, parce que nous réalisons que si nous entendons clairement ta voix et si nous décidons d'y obéir, Seigneur, d'innombrables promesses s'attache à notre vie, comme nous le lisons si souvent dans le psaume 23. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, afin que les progrès dans ce domaine soient évidents pour la gloire et l'honneur de ton nom. Amen.